19h-20h30, c'est la revue tech sur Graffiti.
Bienvenue dans la revue tech, c'est votre toute nouvelle émission avec Maxime. Bonjour Maxime.
Salut Sony, comment ça va ?
Eh bien, ça va très bien. Excuse-moi.
Je disais, c'est vrai, salut Sony, comment ça va?
Pardon. C'est notre toute première. On est très content de vous accueillir. Maxime, je pense que c'est le cas aussi.
On est extrêmement content. On va vous présenter d'abord l'émission et puis on va ensuite partir sur des petites chroniques. Alors en fait, la revue Tech, c'est quoi? On va vous parler tous les deuxièmes jeudis du mois, du coup, de 19h à 20h30. On va vous parler des actus technologiques, en fait, qu'on a rencontrées avec Sony ce mois-ci. Donc là, en l'occurrence, on va parler, par exemple, de la nouvelle loi sur l'USB-C, de la Nintendo Switch 2, des 7 flops qui ont marqué 2024, parce que, pour bien commencer l'année 2025, on va parler des 7 flops de 2024, des nouvelles lunettes connectées qui sont sur le marché. Et on finira après un peu avec des grands formats, des expériences perso qu'on a tous les deux. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu la revue tech. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter, Sony.
Eh ben c'est très bien. Quel magnifique programme.
Présentation.
Ce soir. Bah oui, mais pour cette toute première, et on est très content. Donc voilà, c'est toutes nos actualités coup de cœur, voilà qu'on a vu avec
c'est
Maxime.
C'est ça, c'est ça. Et dans cette toute nouvelle émission, franchement, on est très très content d'avoir monté ce projet-là avec Sony. Et donc là, faut être un peu indulgent parce que c'est la première émission. Donc on espère que ça va vous plaire et on vous retrouvera du coup tous les deuxièmes jeudis du mois de 19h à 20h30, je le rappelle.
C'est ça. Alors du coup, toi, Maxime, tu es pour parler un peu de nous avant de commencer l'émission, parce que voilà, on va apprendre à se connaître au fur et à mesure. Donc toi, Maxime, tu es
alors
dans
moi,
le domaine
je me présente. C'est ça. Moi, je suis administrateur système et réseau et je suis aussi un gros gamer, un gros geek comme on dit. Donc je connais pas mal tout ce qui est actualité technologique. Et donc toi, Sony, parle-nous un petit peu de toi.
Ah ben, du coup, moi, je suis technicien audiovisuel dans la vie, quoi. Et je suis passionné donc de tout ce domaine-là, technique, technologique, depuis tout petit. Donc c'est un réel plaisir de trouver des sujets à vous parler et à débriefer. Et puis même
à partager, c'est ça. C'est clair.
Et bon, c'est parti. Let's go. Moi, j'avais envie de vous parler pour ma toute première chronique de cette toute nouvelle loi sur l'USB-C qui est tombée le 28 décembre 2024. Tu en as entendu parler,
28
toi
Attends, 28 décembre ?
C'était l'année dernière.
Ouais, il y a quelques jours, en fait.
Ouais, c'est ça.
Mais non, je n'avais pas entendu... Ah si, nouvelle loi sur l'USB-C, oui, si. Vas-y, je te laisse continuer, mais ça me parle un petit peu.
Et bien, donc, cette loi-là a été votée, tu sais, dans l'Union européenne. Donc, okay. pour qu'on ait tous les appareils. Donc, je vais te les citer, hein, les smartphones, les tablettes, les liseuses, les consoles portables, comme la Switch que tu vas nous parler dans ta rubrique.
Oui, c'est vrai.
Les écouteurs, les casques, les enceintes Bluetooth, les appareils photo et les claviers et les souris. T'as vu, cette liste est longue.
Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Hein.
Eh ben, donc cette liste-là, donc tous ces appareils-là seront auront besoin d'un
port
USB-C.
C'est pas le choix, obligatoire.
C'est ça.
Seulement en Europe, du coup, pour l'instant.
Oui. Enfin, voilà, c'est une loi européenne pour l'instant.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ok.
Donc voilà, je sais pas si toi tu te souviens de avant. Enfin, genre moi, je me rappelle aussi quand on était au lycée ensemble, Maxime. Toi, t'avais un Samsung, moi j'avais un iPhone. Déjà,
c'était galère. La guerre.
Moi, imagine, j'oubliais à l'internat mon chargeur. Et ben là, j'étais un peu dans la mouise, quoi.
Et ouais, mais en même temps, faut pas acheter d'Apple.
Oui, bon, hein.
Je suis anti-iPhone.
Et donc, voilà, donc ce souci-là, il est fini.
Oui.
Voilà, grâce à cette nouvelle loi.
Ça, c'est cool.
Alors, il n'y a pas que ça dans cette loi, parce que sinon, j'en parlerai pas. Je ne parlais pas que de ça. Les fabricants ont aussi le choix de fournir les chargeurs ou pas dans leur boîte.
D'accord. Non. Ah oui, donc ça, par contre, ah oui, ça fait partie de la nouvelle loi.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'ils sont plus obligés forcément de mettre de chargeurs dans les boîtes. Donc c'est un peu pénible aussi, quoi.
Oui, alors c'est au bon vouloir en fait du constructeur. S'il a envie de mettre un chargeur ou pas, ben il doit l'indiquer par contre sur la boîte.
D'accord, ok. Donc c'est quand même précisé.
Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, bon, voilà, toi, tu n'es pas un Apple addict comme moi. Vous allez le ressentir peut-être dans la revue tech que je suis un peu un Apple addict. Hein,
et moi, un anti-Apple.
C'est ça, il y a un double clan et on a réussi à se réunir quand même. Hein.
C'est clair.
Et donc, moi, je me rappelle en Apple, le 13 octobre, avec l'iPhone 11. Donc, du coup, ils avaient arrêté de mettre leur chargeur dans les boîtes.
Ah oui.
Voilà, ils arrêtaient de fournir, en fait. Donc,
d'accord. Donc depuis l'iPhone 11 ou juste pendant l'iPhone 11, ils avaient arrêté de mettre des chargeurs?
Apple avait choisi en fait de ne plus mettre de câbles en fait. Non,
d'accord, ok.
Donc c'était quelque chose qui réduisait l'empreinte carbone en fait d'Apple parce que leur boîte était plus petite. Parce que bah, en fait, la finesse de la boîte, t'as pas les chargeurs en dessous.
D'accord. Donc c'est pénible parce qu'il n'y avait pas les chargeurs, mais en même temps, ça leur permettait de faire des économies et, comme tu dis, de réduire l'empreinte carbone.
C'est ça. Ouais, ouais. Parce que du coup, tu peux en mettre plus dans le camion.
Eh oui.
Eh bah oui, ils sont malins quand
ingénieux.
Même. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, pas pour les utilisateurs, parce que du coup, ça a gueulé.
Bah oui, c'est ça, forcément. Mais après. Quand t'achètes un iPhone, enfin souvent dans la plupart des cas, c'est que t'en as déjà un avant,
oui,
donc
c'est
aussi pour éviter de balancer les câbles à chaque fois que t'achètes un nouveau téléphone.
Voilà, bah voilà, c'était absolument pour ça que ça a été créé tout ça. Donc voilà, c'était plutôt cool. Alors pour la culture tech, j'avais une petite anecdote. Encore Apple. Hein. Vous savez, il y avait une loi avant qui n'est plus le cas. Hein. C'est depuis le 2 novembre 2021. Avant, il y avait, tu sais, le kit main libre recommandé. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans les pubs, c'est kit main libre.
Oui.
Ça, du coup, c'est une obligation pour les constructeurs donc, de fournir des écouteurs.
D'accord, ok.
Bon, les écouteurs avec un son Dolby Atmos. Il y a un confort premium.
Ah oui, d'accord.
Tu sais, le truc
mais
qui te fait bien mal.
Ouais.
Genre, c'est carrément, tu sais, l'écouteur, il rentre vraiment dans l'oreille.
C'est... Ah oui, c'est...
Donc, bon... Heureusement. Enfin, après, moi, je sais pas si toi, tu utilisais tes écouteurs.
Oh non,
mais...
Bah, pas ceux qui étaient en tout cas vendus avec, hein, parce que c'était vraiment de la... Enfin, c'était entre guillemets, oui, comme tu disais, premium, mais c'était vraiment de la qualité pourrie, quoi.
Non, c'était pas
ouf, quoi.
Donc, oui, alors du coup, Apple, comme ils avaient enlevé les chargeurs plus les écouteurs, en Europe, ils devaient mettre un carton dans un carton.
Il
y a des images sur Google, hein, si vous êtes curieux. Mais c'est assez drôle parce que du coup tu sais l'histoire de l'empreinte carbone du coup c'est mort.
Bah oui.
Parce que du coup
ça servira même quoi, même c'est plus gros parce qu'il y a plus de carton.
Ouais, enfin, c'est ça. Bah, donc du coup l'argument t'es pas bon.
Ouais. OK. Et si je peux ajouter quelque chose moi pour revenir sur l'USB-C,
oui.
J'ai entendu dire moi que aussi il fallait faire attention, je sais pas si t'allais venir, tu me coupes si t'allais venir. Ça
pas de soucis.
Je spoil. Mais qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait des virus qui pouvaient être dans les câbles USB-C.
Ah oui, par exemple quand tu prends les transports.
En fait, ah non, pas tout à fait. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fabricants de câbles USB-C qui arrivent à cacher des micro cartes dans la prise, et ce qui fait que quand tu branches la prise dans ton téléphone, hop, ça te vole tes données. Mais après, ça, je pense que c'est un truc très fermé.
C'était dans le bloc chargeur.
Non, dans le fil.
Dans le fil, dans le petit embout
USB-C, le petit embout.
Oui.
Et dans ce petit embout-là, il y avait une petite carte en fait. Et c'est pour ça aussi que ça faisait un petit peu parler les USB-C. C'est pour ça aussi qu'il y a des hackers, ou plutôt des fabricants, qui se servent aussi de ça dans le mauvais sens.
D'accord.
Alors c'est une bonne chose, mais il faut faire attention. N'achetez pas, surtout, je fais de la prévention ici un peu, n'achetez pas vos câbles n'importe où. Parce que si vous achetez un câble 50 centimes sur AliExpress ou alors un truc pourri, vous pourriez vous retrouver avec un virus dans votre téléphone.
Oui.
Quoi. Donc il faut faire attention d'où est-ce que vous l'achetez, surtout c'est très important.
Bah oui, parce que du coup le câble USB-C, ça apporte du flux, donc du coup numérique. Donc, c'est vrai que c'est pas comme un câble vraiment à l'ancienne, tu sais, dans les Nokia et tout, où c'était juste du courant, genre du courant.
Ah oui, c'est ça.
Là, t'as vraiment de l'information qui passe.
Ça reste du courant, mais oui, c'est clair que ça fait passer beaucoup de données, donc
oui.
Ça peut être nocif pour vous.
Alors, donc, je t'ai donné donc, les appareils concernés dans cette loi.
Oui.
Et toi, voilà, t'as dit que t'étais un pharmacien. Tu dois te demander pourquoi je n'ai pas dit ordinateur dans cette liste.
Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas capté. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec des ordinateurs. Ils ont beaucoup des prises USB-C.
Oui.
Et donc, pourquoi?
Oui, je sais que chez les Dell, il y a ça, il y a du USB-C.
Mais HP.
Les HP aussi, ouais. Oui, je lui démarque.
Même BASR.
Tous les
PC portables, oui.
Et bien, donc, du coup... parce que toi, donc, du coup, ce que tu parles, les ordinateurs, c'est sûrement pas des ordinateurs gamers.
Ah non, c'est des ordinateurs de bureau.
Oui. Donc, du coup, là, c'était plus les constructeurs donc, d'ordinateurs plus puissants, donc de gamers.
D'accord.
Parce qu'ils ont besoin donc, de plus de puissance, tu sais, de 1000 watts, par exemple.
Ah bah oui, bah là, c'est sûr que ça va pas suffire.
Par rapport
les ordinateurs fixes, ils ont besoin de plus de puissance. Donc,
oui.
C'est sûr que les USB-C, ça peut pas...
Non, c'est... Sûr. Donc, oui, parce que là, normalement, dans un ordinateur classique, on est plus à 65 watts.
Ouais, c'est ça.
Pas.
65 et 120 pour certains, mais oui, sinon...
Et donc, donc les constructeurs, ils ont voulu repousser ça parce que, voilà, ça peut pas marcher. Quoi.
Bah non,
c'est pas assez puissant et c'est trop dangereux même.
Donc c'est pour ça qu'ils ont pas mis pour les ordinateurs du coup.
C'est ça. Donc c'est bien pour ça, mais donc du coup le 26 avril 2026. Et voilà, il va falloir encore fêter une nouvelle année.
L'année prochaine.
Les ordinateurs devront s'équiper de USB-C.
Ok.
Donc ça y est, même ton PC gamer sera concerné dans...
La tour
dans... Non,
le PC
non.
tour Ah PC, non, des PC portables.
Oui, portables. Okay, okay.
Bah ah oui, j'ai eu peur, parce que la tour, c'est presque impossible. Mais...
Non, non. C'est...
Ok, PC portable.
On parle bien de PC portable.
Ok. Oui, donc il va falloir soit faire un travail sur la réduction d'électricité que le consomme le PC, soit augmenter la transmission électrique dans les câbles USB-C, quoi.
Oui.
À voir.
Bah oui, bon, ça c'est les ingénieurs, c'est leur boulot. Hein.
Ouais, c'est ça. On verra bien ce qui va sortir dans les prochains mois. Ça se trouve, on vous en parlera d'ici un mois ou deux.
J'espère que vous serez à l'affût pour ça. Alors, donc, du coup aussi, je me suis dit, non mais vraiment, cette chronique est beaucoup Apple, hein. Je ne suis pas sponsorisé par Apple. Mais c'est parce que je travaille sur Mac et voilà, je l'ai vu à côté, j'ai vu ma prise MagSafe. Tu sais ce que c'est, une prise MagSafe sur Mac ?
C'est prise MagSafe, non, ça ne me dit rien.
C'est la technologie propriétaire donc, d'Apple. En gros, c'est un aimant, tu vois.
Ah oui, c'est les aimants, ok.
C'est ça. Donc du coup, quand tu te prends le pied dedans, bah, ça enlève direct le fil.
Ok.
Comme ça, ça évite de faire tomber l'ordi.
Oui, d'accord. Je pensais pas que ça s'appelait MagSafe, mais je vois ce que c'est du coup.
Bah, okay. C'est leur technologie, donc du coup, à Apple. Ok. Et donc, bah, moi, je me suis demandé, bah oui, mais Apple, donc, du coup, ils sortent des Macs, là, des nouveaux Macs avec un MagSafe. Mais pourquoi eux, ils sont pas concernés ? Enfin, est-ce qu'ils sont concernés et tout ? Enfin, je me suis posé plein de questions.
Ok. Ouais,
je pose plein de questions dans ma tête.
Ah ouais. T'as raison.
Et donc, en fait, les constructeurs ne sont pas obligés de mettre des USB-C. En fait, il faut une alternative. Si, par exemple, mon Mac a un MagSafe, il faut que j'ai la possibilité de le recharger en USB-C aussi.
Ah, donc il a forcément une prise USB-C sur le côté, donc
ça
marche.
Moi,
d'accord,
j'ai du USB-C, okay. Donc il charge avec du USB-C, donc c'est tout bon. Donc, bah, il passe crème, quoi. Enfin, il passe dans de la loi. Voilà. Alors, cette même règle, ça pourrait s'appliquer au téléphone, par exemple. Mais,
mais tu vois pas deux prises sur un téléphone, quoi.
Voilà, t'as tout compris. Il faudrait deux prises.
Ouais. Donc, c'est compliqué.
Voilà, donc ben, on se retrouve en 2026 hein, pour... oui, c'est ça, en 2026.
Pour suivre pour les PC, du coup, comment
pour
ça va...
Pour les PC.
Bon, ce qu'il faut retenir, du coup, de ces prises USB-C, c'est que dans l'ensemble, c'est une bonne chose, parce que même iPhone, je suis désolé, mais les câbles Lightning, là...
C'était... Alors, oui, il n'y avait pas beaucoup de courant.
C'était l'enfer, et ça passait, je crois que j'ai vu une étude dessus, ça passait 6 fois moins de données que la câble USB-C.
Non, c'était nul.
C'était l'enfer, c'était beaucoup plus lent.
Non,
c'est vraiment une bonne chose que ce soit passé sur USB-C, mais faites attention du coup, comme je disais tout à l'heure, n'achetez pas ça n'importe où, faites attention à vous, et ça devrait bien se passer.
Bah oui, mais en plus, le mieux, c'est que l'USB-C, il y a tellement plus de possibilités en fait.
C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins fragile.
Ah oui, et puis du coup, tu... non mais il faut vraiment que j'arrête de parler d'Apple. Promis, dans la prochaine revue tech, je ne parle pas d'Apple.
Mais, ah putain, ça va être dur.
Ah oui, ça va être dur. Hein. Mais donc du coup, je sais que l'iPhone... 16 Pro, pardon, bah, tu peux brancher un SSD parce qu'il y a de l'USB-C.
D'accord, ok.
Donc, et tu peux avoir des données comme une vraie caméra et tout grâce à ça. Donc voilà, c'était tout sur cette rubrique USB-C.
Parfait.
Et puis, c'est parti. Est-ce que la Nintendo Switch aura de l'USB-C, elle ?
Eh bien oui, Sony. Donc moi, là, je vais vous parler de la Nintendo Switch 2, en tout cas, ce qui a fuité, parce qu'il n'y a encore eu aucune annonce officielle. Même, je l'attendais aujourd'hui, mais en fait, il n'y a pas eu d'annonce.
Oui, moi aussi, je l'attendais.
Aujourd'hui, ouais, en fait, il y avait... alors, je crois que c'est à Las Vegas, si je ne dis pas de bêtises, il y avait une conférence... Comment ?
Au CES de la Las Vegas ?
Ouais, c'est ça, peut-être. Ouais, c'est ça, au CES, ouais. Et en fait, c'est une conférence sur les nouvelles technologies et on attendait une présentation de la Switch 2, mais que nenni, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de présentation de la Switch 2. Pourtant, je vous laisse imaginer tout ce qu'il y a eu du coup comme fuite sur internet. Il y a eu vraiment énormément de fuites, c'est pour ça que je vais vous en parler. Donc la Nintendo Switch 2, bien que non encore officiellement annoncée du coup par Nintendo, ça suscite vraiment une effervescence notable dans la communauté des joueurs parmi les analystes de l'industrie. Les récentes fuites et spéculations offrent un aperçu potentiel de cette console très très attendue. Et oui, parce que la Switch, on le rappelle, la première sortie de la Switch, c'était, si je ne dis pas de bêtises, en 2012. 2018, je crois, de mémoire. Donc ça commence à faire un bail que la Switch est sortie et on en attend une nouvelle version. Donc, de ce que j'ai vu, la Switch 2 est très, a l'air très très sympa, puisque elle serait légèrement plus grande du coup que la Switch OLED, que la version OLED de la Switch. Elle serait dotée d'un écran de 8 pouces. Les Joy-Con se fixeraient magnétiquement. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de système de rails qui coulissent. Aïe, aïe.
Mais ça en plus c'est drôle parce que du coup c'est leur DA un peu. Je sais pas si t'as le jingle de la Switch en tête.
Oui, c'est le... Ouais, carrément.
Donc là, ça fera
là, c'est ça. c'est vrai que oui, ça fera ça. Parce qu'en fait, mais par contre, c'est vraiment une belle avancée. Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de problèmes sur la Switch où quand on clipsait la manette, ça détectait mal et tout. C'était pas très pratique en vrai, à force. C'était assez fatigant d'utiliser ce système. Et donc là, ça va être un système aimanté. Donc en fait, les manettes sur les côtés, vous viendrez les mettre sur les côtés de l'écran et hop, ce sera aimanté avec un aimant puissant. Et ça rechargera les manettes automatiquement. Donc c'est vraiment hyper pratique comme système, je trouve. Donc ça, c'est la première nouveauté du coup de la Switch. Donc il y a aussi un mécanisme de verrouillage derrière les manettes pour pas que elles se barrent. Par exemple, c'est vrai que si on est en train de jouer et qu'on est en train de tirer un peu sur les manettes, on peut se dire ah, mais ouais, mais on va se barrer parce que c'est que des aimants. Mais il y a quand même derrière un petit mécanisme qui permet de verrouiller la manette, quoi. Donc ça, c'est cool.
Ah, parce que pour les rageux, il y a quoi comme jeu qui peut faire rager sur Switch ?
Je crois qu'il y aura la sortie de Doom, si je dis pas de bêtises. Il y aura Metroid... Attends, tu spoil un petit peu. Annoncer les jeux à la fin de la chronique.
Excuse-moi.
Attention, Sony.
Oh là là, je vais trop vite.
Mais en tout cas, vous aurez des belles surprises. Donc, en plus de cette nouveauté, qui est pour moi l'une des plus grosses quand même des nouveaux Joy-Con, il y aura un petit bouton supplémentaire sous les boutons Home du Joy-Con droit, si je dis pas de bêtises. En fait, sa fonction, ça reste à déterminer. C'est pas encore dit à quoi ça va servir, mais on sait que c'est pour ceux qui ont une Switch chez eux, c'est le même bouton que capture d'écran, un petit bouton carré. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble.
Oui.
Il y en aura un autre du coup sur l'autre Joy-Con. Alors, est-ce que c'est une copie de capture d'écran, tu sais, pour qu'en mode si t'es deux joueurs, si t'as une manette chacun, hop, tu puisses faire une capture sur les deux manettes et pas que sur une. On sait pas encore en fait à quoi il sert ce bouton. On peut imaginer plein de choses en vrai. Peut-être aussi à lancer des captures vidéo.
Oui.
On sait pas. Il y aura également un nouveau système de maintien en mode portable, donc ce sera plus... sur les Switch basiques, c'était une petite languette en plastique derrière qui franchement tenait mal, c'était vraiment pas optimal. Ça se cassait assez facilement parce que c'était vraiment du plastique très léger.
Ah oui, oui.
Et sur la Switch OLED, sur la version OLED, c'était un petit peu mieux. C'était carrément toute une grande languette derrière qui se dépliait pour pouvoir poser la Switch sur la table.
Bah oui, l'écran était plus grand du coup OLED.
OLED, un peu plus grand, mais c'est surtout que, enfin, derrière, ils ont fait un meilleur système pour poser la Switch, quoi. Parce que c'était vraiment pas sur la Switch de base.
Moi, il se casse parce que j'avais une Switch, mais pas OLED, mais elle se casse trop.
Ah oui, c'est pénible. Ce truc en plastique derrière, ça tient presque pas.
C'est nul.
Et donc là, la nouveauté qu'ils ont mis, c'est une tige en métal. En forme de U en fait derrière, donc comme un peu comme la Switch OLED, ça se déplie un peu comme la Switch OLED, sauf que là c'est une tige en métal, c'est pas un panneau plat en fait qui se déplie, c'est une tige en métal, donc déjà c'est beaucoup plus léger et
c'est du métal.
Ouais, c'est ça. En plus c'est plus solide et ça permet de le ranger plus facilement aussi. Enfin voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc du coup ce sera une tige en métal en forme de U. Ça c'est une autre nouveauté du coup de la Switch 2, donc pour maintenir la console. Il y aura également un nouveau design du dock, le dock sur lequel on le pose, qui reste dans le salon. Il y aura un nouveau design en fait. Celui-ci sera un peu plus arrondi, donc un petit peu plus moderne, et il laisserait passer plus d'air aussi pour refroidir la console, parce que c'était un des problèmes aussi de la console du dock, c'est qu'elle chauffait un petit peu. Alors c'était pas méchant, mais c'est quand même mieux si elle refroidit plus, quoi.
Parce que dans ce dock, il y a quoi en fait dedans ?
Alors dans le dock, il y aura une prise Ethernet en plus du dock de la Switch.
Il n'y en avait pas avant, ouais.
Alors il y avait, mais que sur, si je dis pas de bêtises, la Switch OLED.
Ok. Ça me rappelle. C'est un adaptateur,
ouais.
L'autre, c'est un adaptateur qu'il fallait acheter.
C'est ça. Il fallait acheter un adaptateur USB pour pouvoir mettre en Ethernet. Donc c'était vraiment pas pratique. Donc là, il y aura directement une prise Ethernet de mise dans le dock. Donc ça, ce sera pas mal aussi. Donc comme nouveauté. Donc il y aura également des meilleures performances. Ça, on l'attend bien sûr. Il y aura la technologie. Apparemment, donc tout ce que je dis, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est ce qui a été dit sur internet, ça n'a pas été officiellement annoncé, mais on l'attend, c'est presque sûr qu'il y aura ça.
De toute façon, Maxime, je pense à la prochaine Revue Tech. Peut-être on refera un point sur,
possible,
sur les
possible,
avancées,
oui.
sur les jeux qui sont sortis.
Carrément.
Plus officiels, quoi.
Ouais, c'est sûr. Peut-être que d'ici là, ce sera plus officiel. Donc là, on attend la technologie DLSS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la technologie DLSS, en fait, c'est une technologie qui utilise un petit peu l'IA, en gros, pour soulager la carte graphique. C'est-à-dire que l'IA va générer des pixels qui ne vont pas être générés par la carte graphique et donc ce sera moins gourmand. Bon, j'en parle rapidement ici, mais il y a eu les dernières cartes graphiques 5000 qui ont été annoncées par Nvidia la semaine dernière, et franchement, il y a le DLSS 4 qui a été annoncé, et c'est vraiment une énorme avancée sur ce point de vue-là. Donc là, ce sera DLSS de base pour l'instant pour la Switch 2, mais en tout cas, ça reste vraiment très intéressant au niveau performance. Donc du coup, ça va bien sûr améliorer les graphismes. Et il va y avoir une nouveauté, c'est que là sur la Switch, ce qu'on avait, c'était du 720p sur la Switch normale.
Oui.
Sur sa grande sœur, la Switch OLED, c'était
du
1080.
Parce que du coup, tu t'en rends pas compte tellement que les jeux sont bien optimisés quand même.
Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que les jeux étaient quand même assez jolis.
720p donc sur la Switch.
Sur la Switch et sur la télé, c'était du 1080p.
1080p. C'était... Et ceux qui avaient du 4K, comment ils faisaient ?
Eh ben, pas le choix, 1080p
ah ouais.
sur la télé, t'étais limité. Et donc là, ça va être quand même une grosse avancée du coup, parce que quand tu vas brancher la Switch, ce sera de la 4K justement, et ce sera de la 4K.
Les yeux, là.
Ouais, c'est clair, ça va. Il y aura vraiment une belle image, voilà.
Mario Kart en 4K, ça va être incroyable.
Ouais, c'est clair. Et il y aura aussi apparemment 120 Hz pour ceux qui ont une télé 120 Hz. On pourra mettre la. Non, pardon, je dis des bêtises. 90 Hz. Comparé à 60 Hz qu'on avait avant, du coup ça c'est vraiment cool aussi niveau écran. Et sur la Switch, donc pas branché à la télé, pas docké, on sera du 1080p,
okay.
Au contrairement à du 720p.
Ah bah c'est mieux.
Donc c'est quand même vachement bien.
C'est du progrès.
Ouais, c'est clair. Et donc cette avancée, elle pourrait aussi faciliter le portage des jeux de franchise majeures sur la nouvelle console. C'est-à-dire les anciens jeux, ils pourraient aussi facilement se mettre sur la nouvelle Switch. Donc ça c'est cool, on n'aurait pas besoin d'acheter de nouveaux jeux. Nos anciens Mario Kart, nos anciens Mario Party, donc Donkey Kong, on pourra les remettre sur la nouvelle Switch. La seule différence avec les nouveaux jeux Switch, en fait, c'est que les nouveaux jeux Switch, pardon, sur la languette, ils auront un petit truc en plastique pour pas que ces jeux Switch-là, on puisse les mettre dans l'ancienne Switch.
Aïe, il est
malin. Mais en même temps, c'est pas compatible, donc c'est normal aussi, quoi. Ils ont bloqué ça, donc du coup, on pourra mettre nos anciens jeux dans la nouvelle Switch, mais on pourra pas mettre nos nouveaux jeux dans l'ancienne Switch. Ce sera bloqué.
Ok. Bon, ça va, alors.
Donc, voilà. Donc, du coup, au niveau de date de sortie et de prix, donc il y a des spéculations qui indiquent que la sortie de la Switch 2 serait prévue officiellement entre mars et avril 2025. Donc, on y arrive bientôt. C'est cool, c'est tout proche.
Ah bah oui.
Et le prix pourrait se situer entre 400 et 500 euros, bien que ça ait été encore annoncé. Il y aura notamment des nouveaux jeux comme Metroid Prime, Pokémon Legends, Donkey Kong Country et encore beaucoup d'autres. Donc du coup, pas que comme en conclusion, bien que Nintendo n'ait pas encore officialisé la Switch 2, les informations disponibles sont quand même assez vaste,
oui.
Et donc ça permet d'en savoir quand même pas mal sur cette nouvelle Switch. Donc c'est quand même assez cool, franchement. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte, et puis on en verra plus bientôt, je pense. Je pense qu'il y aura très bientôt une vraie révélation, une vraie date de sortie, un vrai prix, etc. Parce que tout ça, je le répète, ce ne sont que des pincettes, mais c'est ce qui s'est vu, c'est ce qui a été fuité. Il y a eu notamment des vidéos de la Switch qui ont été fuitées, donc sûrement par des employés ou je ne sais pas comment
ça marche.
Et au
CES, tu as des fabricants donc d'accessoires de la Switch qui sont présents en fait et qui ont fait fuiter des données.
Bah, d'accord. Okay.
Peut-être que t'as dû mettre. Pour rappel aussi, la Switch 1, du coup, c'était celle qui succédait la Wii U. Voilà,
oui, c'est vrai, carrément. Qui n'a pas du tout marché, qui a complètement
qui a fait
flop,
un gros flop.
La Wii U.
Et donc, celle-là, la Switch 1, elle est sortie le 3 mars 2017.
Ok, bah oui, donc
2017,
ça commence à...
2017, on est en
2018,
2025.
D'ailleurs,
hein.
J'ai dit une bêtise. Bah
ah
oui.
Mince,
j'ai dit une bêtise, c'est moi, j'avais dit 2018, c'était 2017. Et non, mais oui, ça commence à faire. Donc là, on attend vraiment une Switch 2, donc c'est cool.
Eh bien, c'est parti pour la petite pause musicale parce que on a besoin de se détendre.
Carrément. Donc, je te laisse mettre ta musique, Sony.
Oh oui. Eh bien, comme j'avais fait dans une autre émission, je vais vous mettre une artiste que je connais bien parce que c'est ma préférée. C'est parti pour Anya Reni, Hello.
19h-20h30. C'est la revue Tech sur Graffiti.
Et nous sommes de retour. Salut Maxime, re.
Re Sony, du coup. On est de retour, du coup, pour vous parler de deux nouvelles chroniques. Donc moi, je vais vous parler tout d'abord des 7 flops technologiques, du coup, qui ont marqué 2024. Pour commencer cette belle année 2025.
Un peu de fun dans cette émission.
Un peu de fun, c'est parti. Donc du coup, d'après toi, de quoi on va parler en priorité, Sony, là, pour les 7 gros flops? Est-ce que t'en as un qui te vient en tête, déjà?
Me parle pas d'Apple, déjà. Hein, en tant qu'Apple addict.
Ah, quel dommage. Le premier sur ma liste, c'est l'Apple Vision Pro.
Le premier en plus.
Eh ouais, le premier, le plus l'Apple Vision Pro, donc que vous avez sûrement dû voir passer. C'est le dernier casque de réalité virtuelle d'Apple, donc qui a vraiment totalement flop de par son prix. Surtout parce que c'est vraiment excessif. Donc la sortie de ce casque, c'était au mois de février, donc alors que les rumeurs circulaient depuis de nombreuses années qu'ils allaient faire un casque, c'était enfin sorti le mois de février 2024. Mais c'était plutôt de la réalité mixte et pas de la réalité virtuelle, pardon. C'est surtout en fait la réalité mixte c'est comme un ordinateur spatial en fait. C'est-à-dire que c'est pas de la réalité virtuelle, on n'est pas dans un monde virtuel. Quand on met le casque, on voit chez nous quoi. Oui. Devant, c'est comme si c'était des lunettes normales. Et juste qu'en fait, on prend des fenêtres, pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, on peut travailler sur le casque, on peut mettre une vidéo, mais en fait, dans le vide, dans votre espace. En fait, si vous voulez, c'est un écran qui est devant vos yeux, du coup, comme des lunettes virtuelles normales, sauf qu'il y a une caméra qui est au-dessus, qui filme ce qu'il y a devant vous, et vous avez l'impression, en fait, vous êtes assis à votre table de cuisine, vous avez l'impression d'être assis à votre table de cuisine, mais vous pouvez aussi afficher une vidéo YouTube ou autre chose. Et pourquoi est-ce qu'il a flop ce casque en fait? C'est parce que il a beaucoup été testé en public, il a été beaucoup vu et controversé parce qu'en fait, déjà il y a beaucoup de personnes, il faut savoir qu'il l'utilisait dans la rue, alors que c'est pas du tout fait.
Je me souviens des vidéos ridicules dans la rue.
Il y a des gens qui sortaient dans la rue avec le casque, mais c'est pas du tout fait pour ça. Non, déjà premièrement, c'est vraiment fait pour rester assis chez soi et pour regarder une vidéo. Mais en fait, il y en a certains même qui sont allés jusqu'à conduire avec carrément. Cependant, lors de sa sortie en France en juillet, le casque était déjà en perte de vitesse. En fait, il se vendait déjà beaucoup moins. Et il faut dire qu'en même temps, avec un prix de 4000 euros.
Oh, ça va, tout le monde a ça sur son compte en banque.
C'est clair, 4000 euros de casque, du coup, c'est très loin d'être à la portée de tout le monde en fait. Mais après avoir réduit la production plus tôt cette année, Apple serait sur le point d'y mettre un terme définitif. Donc malheureusement, mal pour ce casque. Donc du coup, c'est vraiment un gros flop de 2025 de part, du coup, notamment son prix. Et puis même, en fait, c'est bien, c'est pratique de travailler dans son canapé et tout, mais ça, c'est pas vraiment une nouveauté, tu vois ce que je veux dire? Tu peux prendre ton ordinateur, le mettre sur tes genoux et travailler sur ton ordinateur, même si c'est quand même une énorme avancée. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait, c'est pas assez, et surtout c'est trop cher, c'est vraiment pas fait pour tout le monde du tout, quoi. Donc, c'était notre premier flop Apple de 2024.
Mais je suis au fond du studio en train de pleurer là.
Donc on part du coup sur notre deuxième flop. Alors notre deuxième flop de l'année 2024, c'est le Human AI Pin. J'espère que j'ai un bon accent. Alors en fait, ça a été officiellement lancé à la fin de l'année dernière, donc fin 2023. Mais du coup, ça a vraiment eu un essor en 2024. Et en fait, qu'est-ce que c'est du coup? C'est une sorte de petit smartphone, mais sans écran. En fait, d'accord, il s'agit d'un petit badge qui intègre l'intelligence artificielle, pardon.
Ah oui.
Et en fait, il n'y a pas d'écran.
Oui, c'est un projecteur.
Oui, c'est ça.
Ah oui.
En fait, il se commande à la voix et peut projeter des images simples dans la peau, dans la paume de la main, en fait. Et il détecte, par exemple, quand tu serres les doigts ou quand tu fais des choses comme ça. Mais en fait, c'est comme si vous aviez un téléphone. Mais sauf qu'au lieu d'avoir un écran et de pianoter avec, il faut lui parler et... Et il projette des images sur la main, comme l'heure ou j'en sais rien, des trucs. Enfin voilà.
Oh, c'était nul.
En vrai, mais sur le papier, franchement, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit en vrai, ça peut être une bonne idée.
Une alternative.
Une alternative, aux écrans, justement, pas avoir d'écran. C'est ça qui est surtout le point positif de ce truc. Mais en fait, lorsque les premiers testeurs ont enfin pu s'en saisir en avril, du coup, c'est sorti officiellement en avril, ils ont été très déçus parce que c'est très mauvais en fait. Vraiment, c'est surtout aussi assez cher, $700. Plus un abonnement mensuel de $25.
Il y avait un abonnement.
Il y avait un abonnement, sinon tu pouvais pas l'utiliser. Donc ça, c'est un peu de l'arnaque déjà.
Oui.
Et en fait, c'était vraiment un peu très gadget en fait.
Oui, oui.
Ça remplace vraiment pas un téléphone. Alors certes, sur le papier, c'était pas mal parce que ça proposait quelque chose sans écran, mais ça remplace vraiment pas un téléphone.
Comment t'écrivais un message ?
Bah, tu le dictais en fait, du coup,
ah, oui.
À l'oral.
C'est
ça, parce qu'imagine, t'as une faute. Non, corrige. Non, recorrige. Non.
Et imagine dans le transport et tout.
Ah non, c'est
déjà
c'est...
tout le monde voit.
Bah, c'était pas pratique.
Ta main.
C'est ça.
Et puis le bruit autour, je pense pas que.
Non, non, c'est clair que c'était pas. C'est... Ça allait pas remplacer le téléphone, c'est sûr. Ah, mais sur le papier, ils ont bien essayé, mais c'était un gros flop. Donc le troisième flop de cette année 2024, c'est le Rabbit Air 1. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un autre appareil basé sur l'IA, du coup, sur l'intelligence artificielle. Donc ça a connu une aventure un peu différente de l'AI Pin, qu'on a parlé juste avant.
Oui.
En fait, lors de son lancement en janvier du coup 2024 au CES, du coup qu'on a parlé juste avant pour la Switch,
bah oui.
C'est au même salon que ça a été présenté. Et ça avait suscité un certain engouement, les gens étaient un peu contents et tout. Il y avait des couleurs vives avec un peu un style rétro, ça faisait beaucoup en fait penser à un Tamagotchi.
Oui.
C'était un peu un Tamagotchi en mode IA quoi. Mais contrairement à l'AI Pin, c'était doté d'un écran du coup.
D'accord.
C'était un peu la même chose mais avec un petit écran.
C'était
style...
pas un écran couleur non
Non, c'était pas un écran couleur.
C'était
je crois.
Blanc non
Ouais, c'est ça. Style Tamagotchi en fait, mais avec un écran
d'accord,
LED blanc mais pas de couleur. C'est ça. Ça, en fait, le gros problème. Franchement, ça aurait pu être sympa si ça marchait bien.
Oui.
Ça aurait pu être cool, tu vois, un petit appareil.
C'était joli, hein. Et puis avec le petit appareil photo aussi, où tu pouvais te faire des selfies.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai.
Et puis même pour l'IA, du coup, ça permettait de voir, en fait, qu'elle voit son environnement et que ça soit plus performant.
Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, c'est clair. Mais en fait, pourquoi ça a flop, c'est parce que c'était totalement rempli de bugs et c'était vraiment très, très lent. Et en fait, les gens, ils ont découvert que ça n'avait pas de véritable intérêt, quoi. Donc, au mois de septembre, il ne restait que 5000 utilisateurs qui l'utilisaient chaque jour. Donc, en fait, c'est rien, quoi. Il ne restait que 5000 personnes qui l'avaient.
Ah bah oui, là, c'était pas...
Donc, c'était vraiment un gros flop, encore une fois. Donc, du coup, on part, si je ne me trompe pas, sur le quatrième flop, donc qui est le Sony Concorde. Donc, en fait, c'est en même temps que l'Astrobot sur la PS5... je dis n'importe quoi. En fait, Sony Concorde, c'est un jeu vidéo qu'ont sorti Sony. Et en fait, c'est en même temps que Astrobot, oui, sur la PS5, pardon, c'est ce que je disais. Donc Astrobot, ça a reçu le prix de l'année cette année en 2024. Et donc il y a le jeu Sony Concorde qui est sorti. Ça n'a pas du tout connu le même succès, évidemment, si je vous en parle, et si c'est dans les flops de 2024. En fait, c'est un jeu de tir qui était à la première personne et qui était publié par Sony, du coup, et développé pendant 8 ans quand même. Ça a été développé pendant 8 ans avant de sortir. Donc tu te dis,
il y a du temps quoi.
Bah, t'as le temps de sortir un bon jeu en 8 ans. Surtout développé par Sony, qui est une grosse entreprise, il y avait beaucoup d'attentes en fait aussi. Et en fait, ça a aussi coûté 400 millions de dollars. Donc assez cher. Franchement.
Tout ce qui est nouvelle technologie, ça coûte une blinde.
C'est ça. Il y a eu beaucoup d'argent et de temps qui ont été mis dans ce projet. Donc les joueurs forcément ils attendaient beaucoup de ce jeu. La sortie a été un fiasco complet. Pour être honnête, même moi, en tant que gamer, en fait, avant de voir l'article, j'en ai même pas entendu parler. Alors que je suis aux affûts sur les nouveaux jeux et tout, hein. J'en ai même pas entendu parler. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai fait...
Ça me dit rien non plus.
Ben oui, Sony Concorde. Donc en fait, ça aurait vendu que 25 000 exemplaires, ce qui est rien, clairement. 25 000 exemplaires dans le monde du jeu vidéo, c'est vraiment pas beaucoup. Et les serveurs étaient vides, il n'y avait personne sur le jeu. Donc du coup, lancé en août, Sony a décidé en septembre de fermer les serveurs, de rembourser les joueurs et de fermer Firewalk Studio, qui était le studio développeur du jeu.
Ouais.
Donc en fait, 8 ans, 400 millions de dollars à la poubelle, clairement. C'est vraiment un gros, gros flop.
Ils ont testé.
Ouais, c'est ça. Sûrement le plus gros flop niveau jeu vidéo, en tout cas, de l'année 2024. Alors on va passer pour le cinquième flop Sony.
Vas-y.
Je vais te parler de Microsoft Copilot en intégration sur les PC.
Attends, oui parce qu'il y a une touche qui est arrivée
c'est
à la place du FN, non ?
Ouais,
non, je sais plus,
alors en fait il y a deux FN sur votre clavier si vous avez un ordinateur devant vous. Il y a un FN à gauche qui est le bouton fonction et il y a un FN à droite. Alors moi je l'ai pas, pour le coup j'ai mon PC devant moi, je l'ai pas. Mais
j'étais
pour
en
certains,
train de regarder ton clavier.
Voilà, mais il y a un FN à droite à la place de Alt-GR ou Contrôle quoi. Bon, sur la droite du clavier.
Ah oui, c'est à la place de Windows, non ?
Non, à droite, ici.
Ah ok.
Au niveau de Alt-GR Contrôle. Et en fait, Microsoft Copilot voulait intégrer son IA, en fait, Copilot, c'est l'IA de Microsoft, qui voulait intégrer ça sur les PC. Et en fait, c'est vraiment, en ce moment, c'était 2024, c'était quand même la course à l'IA, c'est pour ça que Microsoft a essayé de faire ça. Ça a même été ils ont même été jusqu'à créer une certification Copilot PC. C'était vraiment okay. un truc ancré, quoi. Ils voulaient vraiment que ce soit ancré sur les PC et tout. Donc des ordinateurs équipés d'accélérateurs IA avec des fonctionnalités exclusives, du coup, ça rajoutait. Mais malheureusement pour Microsoft, beaucoup d'utilisateurs ont déjà testé Copilot, qui est intégré dans différents produits Microsoft, et sont frustrés par les nombreux bugs en fait qu'il peut y avoir sur Copilot. C'était le début, et forcément, l'IA, on contrôle pas encore assez bien, et c'est vraiment truffé de bugs. Et donc au bout du compte, les Copilot plus PC n'ont représenté que 10% des ventes au troisième trimestre, les acheteurs préférant éviter l'omniprésence de l'IA. Même moi, en vrai. J'aime bien l'IA, je l'utilise des fois pour travailler et tout, pour créer des dialogues ou des jeux ou des choses comme ça. Mais je voudrais pas que l'IA non plus soit dans mon PC. Déjà, j'en parlais tout à l'heure avec les nouvelles versions de cartes graphiques, ça me fait un peu peur parce que je me dis, ouais, mais en fait, on rajoute l'IA au détriment de la vraie puissance.
Oui,
tu vois ce que je veux dire?
En
fait, ça a une bonne chose parce que ça consomme moins et ça permet d'avoir de meilleurs quand même graphismes, mais en même temps, ça enlève de la vraie puissance. Tu vois ce que je veux dire? De la puissance physique.
Oui.
Donc, je suis un peu mitigé à voir du coup ce que ça donnera quand les nouvelles cartes sortiront.
J'avais entendu parler aussi d'une IA qui regardait carrément tout ce que tu faisais sur ton ordi. Tu lui disais, lundi dernier, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et lui, il ressortait, fait ça. Et ça, c'est super flippant.
C'était avec Microsoft Copilot, en fait.
Ok.
Il me semble. Oh. Et justement, j'avais vu ça aussi, mais c'est vrai que d'un côté, en fait, c'est une bonne idée, c'est intéressant, parce que du coup, on peut revenir sur plein de choses.
Trou de mémoire.
C'est ça, trou de mémoire, hop, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière, mais en même temps, t'as pas envie de t'espionner toute la journée, quoi. Donc, je termine vite fait avec les 6 et 7 flop de l'année 2024. Donc, il y a le 6e flop, c'est le Tesla Cybertruck. Donc, ça a été sorti en 2023, mais ça a quand même connu... c'est quand même sorti, en gros, en 2024. Ça a été une très mauvaise année... avec pas moins de 6 rappels de voitures. Donc des problèmes de logiciel, mais aussi un problème avec le matériel et avec le moteur, c'était vraiment la catastrophe. Le Cybertruck avait eu, entre autres, un problème de pédale d'accélérateur bloquée, des défauts de fabrication, des problèmes de rouille, la batterie qui se vide, des problèmes de calibration et de capteurs, et bien d'autres. Franchement, c'était un peu catastrophique, ce Tesla Cybertruck.
La direction aussi, qui n'était pas une réelle direction aussi, ce que j'ai entendu parler.
Direction assistée...
T'avais de la latence, tu tournais ton volant à gauche, t'avais de la latence.
Ah oui, c'est vrai, en fait, c'était pas physique, et c'était avec un moteur et une carte, en fait, qui pilotait ça. Mais c'était pas physique, nous, dans nos voitures, si vous voulez, quand on tourne le volant, c'est vraiment physique, il y a un rail qui tourne et ça fait tourner les roues, quoi. Là, c'était piloté avec une petite carte, en fait, et un potentiomètre, en fait, avec... il me semble que c'est ça. J'espère que je dis pas de bêtises.
Mais en fait... Les pros de Tesla,
Tesla Cybertruck. En plus, c'était hyper dangereux. Je sais pas si tu te souviens, mais les coins...
C'est énorme.
Mais les coins saillants, c'est hyper dangereux. Tu te cognes la tête dessus, finito.
En France, en France, il est pas sorti, hein,
Non, il est vraiment interdit.
Permis poids lourd, il me semble.
En plus,
en France,
mais même, surtout, c'est hyper dangereux. Donc, gros flop pour le Tesla Cybertruck. Et donc le dernier gros flop, le 7e flop de l'année 2024, c'est les processeurs Intel de 14e et 13e génération. Donc Intel a connu une très mauvaise année avec l'apparition d'un bug dans certains de ses processeurs, dans même beaucoup de ses processeurs de 14e et 13e gen, qui faisait en fait complètement planter les ordinateurs. Donc en fait, le problème, il a finalement été identifié, donc heureusement pour eux, c'est bon. Mais en fait, c'était un problème de voltage trop élevé. Et Intel a fini par publier une mise à jour, du coup, qui a résolu le problème. Mais pendant un petit moment, c'était quand même, quand c'est sorti, un gros flop, quoi. Heureusement, ils ont réussi à rattraper ça, mais c'était quand même un peu problématique pour les PC. En gros, tous ceux qui avaient utilisé avant la mise à jour, le mal avait déjà été fait, quoi. Oui. Dans de nombreux cas, ce bug a physiquement endommagé le processeur, de quoi nuire sérieusement à la réputation de la marque.
Intel.
Super Intel.
Super.
Merci.
Merci Maxime pour ce top 7. Très passionnant. Moi, j'avais envie de vous parler de ce nouveau marché des lunettes connectées. Et ça tombe bien parce que, du coup, dans ces 7 flops, tu t'es penché sur les casques d'Apple.
Oui.
Et ben, donc moi, je me suis intéressé plutôt sur les lunettes connectées.
D'accord.
Est-ce que ça te parle?
Alors, très rapidement, mais pas trop, tu vas nous en dire plus.
Ah bah, il y a intérêt. Alors, j'avais envie de revenir, même si tu en as parlé rapidement, entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle.
Oui.
Alors moi, je vais vulgariser. Hein. La réalité augmentée, c'est ce qu'on voit dans la vraie vie. Hein, et donc, on peut interagir sur les objets en regardant une caméra. Et en fait, dans la vraie vie, on voit un faux écran. Mmh. Ça, c'est ce que tu as bien expliqué, Maxime. Et la réalité virtuelle, c'est vraiment... on est déconnecté du monde. Donc, on ne voit pas dans la vraie vie, pas avec de caméra. Comme le projet de Facebook Meta.
Voilà. Ah oui, c'est vrai, Facebook Meta.
Du coup, un peu comme c'était le film de Steven Spielberg, là, Ready Player One.
Oui, oui, oui. Ouais, ah ben ça, ça par ouais. contre, c'est un truc de fou, ça. Ready Player One. Ou aussi, plus communément, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, c'est VRChat aussi, qui est complètement là-dedans. C'est même c'est le truc de Meta, mais
oui, oui parce que vidéo, ça a été racheté par Oculus, Meta, du coup. Non, attends. Meta a racheté Oculus.
Oui, je crois que c'est ça. C'est dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est la même chose que VRChat, quoi, pour ceux qui connaissent.
Et donc, alors là, je vais vous faire revenir dans longtemps. Hein. On est en 2012. Google annonce ses Google Glass.
Google lunettes.
Non, mais tu t'en souviens de ça ou pas?
Ça me
dit. Ou est-ce que
rien.
Tu les as connus?
Peut-être.
À mon époque.
En l'an 70.
En 2012, rappelons. En gros, Google, ils annoncent ça pendant une conférence. Et c'est des lunettes un peu transparentes. Et en fait, t'as un écran, un petit écran qui est sur la lunette.
Ouais, ouais, carrément.
Et donc, ça, c'était en quelque sorte une technologie de réalité augmentée. Donc, faute de succès commercial, il a été abandonné. Voilà, on aurait pu le mettre dans tes flops.
Peut-être, bah oui, mais enfin, c'est pas des flops d'année 2024, ça.
Oui.
Ça date un peu.
Oui, ça date un peu là pour le.
Mais
flop.
C'est vrai que je pense que c'était aussi peut-être sorti un peu trop tôt, tu vois.
Pour, c'était trop futuriste, ouais.
C'est ça.
En fait, donc ça ne marchait pas, ça n'attirait pas le monde, et ensuite ça. Il y avait cette préoccupation de la vie privée donc qui était déjà dans la tête des gens et en fait quand tu sortais avec ces lunettes tu avais un terme qui a été inventé, alors c'est le glass holds, wow l'accent.
Tu l'as vu.
Ouais, c'est glass holds. Ouais, c'est de l'anglais, hein. Je suis pas très fort en anglais. Hein. Et donc bon, pour vulgariser, je vous ai traduit ce mot là, c'est une personne qui porte des lunettes connectées mais qui est isolé du monde extérieur et qui filme des gens autour à leur insu.
Ah ouais, d'accord.
Alors j'étais tombé, en fait, j'ai écrit ce terme là sur YouTube et en fait je suis tombé sur un YouTuber qui a fait une vidéo en se moquant de tout ça. Et en fait, il parle à ses collègues et ben en fait il parle à ses lunettes connectées où il filme des fois sa partenaire.
Il fait tout. Ah ouais,
c'est un
d'accord.
Peu spécial.
Il fait tout
quoi.
Avec ses lunettes.
C'est
quoi.
Vraiment spécial.
Ok.
Et vraiment cette déconnexion du monde.
Voilà. Ok.
Donc voilà, lunettes Google, ciao. Alors, en faisant mes recherches aussi, j'ai vu qu'ils allaient relancer quand même les Google Glass. Je ne me suis pas assez informé pour vous en parler, parce que là, je vais aller un peu plus loin. On va aller en 2016. Non, mais là, c'est le voyage dans
le temps
ici. Donc, en 2016, Snapchat avait sorti les Spectacles. Je sais pas si tu t'en souviens.
Ça me dit rien non plus.
Ils avaient mis des drops là, tu sais, aux États-Unis, il y avait des boîtes où tu pouvais te servir. Bon, c'était payant, il me semble, de lunettes Snapchat. Donc c'est des lunettes de soleil et t'avais une caméra en fait qui était sur la branche de lunettes.
Ah ouais.
Et tu pouvais filmer ou enfin faire des stories et filmer pour ta story Snap.
Et après les lunettes, tu les remettais dans le.
Non, en fait, c'est à toi, tu les as payées en fait.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc. Donc c'était sympa, c'était fun, les couleurs étaient vraiment fun. Voilà, ils sont encore là, voilà, ça a pas fait
encore là,
ça a pas fait un flop.
Ok.
Bon, bah, on peut les applaudir.
Bravo Snap.
Mais on va revenir à Snap un peu plus tard parce que eux ils sont vraiment dans le futur, j'ai l'impression. Donc voilà, vous pouvez les acheter sur le Bon Coin, il me semble les Spectacles 1. Celle-ci, je pense que tu les connais celle-ci. Donc on est en 2023 et Ray-Ban. Meta,
ah
tu les connais ceux-là?
Ray-Ban Meta, oui, ça me dit forcément quelque chose.
Là, l'exemple que j'ai, c'est, tu sais, les caméras cachées de Laurent Baffy, par exemple.
Oui, si, enfin, si.
Ils les utilisent. Il y a plein de caméras cachées qui les utilisent. Bon, déjà, je sais pas comment il fait.
C'est hyper pratique. Elles sont sorties quand? T'as la date ou pas?
Oui, en 2023.
Donc, c'est très récent.
Ah oui, c'est récent.
C'est les lunettes, en fait. Il y a beaucoup de TikTokers aussi qui ont ces lunettes-là.
Oui.
Et je me suis déjà fait surprendre, en fait... Parce qu'en fait, on voit quelqu'un qui est en train de se filmer dans son miroir,
ah,
mais il
n'a
pas de téléphone. Et on se dit, mais elle est où la caméra?
Oui, oui. Bah, on ne
comprend
pas.
Donc ça doit être avec ces lunettes-là, en fait.
Donc ouais c'est alors en plus donc ils ont pas que des caméras hein, ces haut-parleurs c'est wow, ben voilà je viens de vous spoiler ils ont pas qu'une caméra
c'est net.
Ils ont aussi des haut-parleurs dans les branches tu sais comme ils avaient fait Bose
Oui c'est clair oui,
ouais,
oui.
Alors j'avais testé c'est pas incroyable mais ça a le don d'être là ensuite donc je me suis penché sur que disait la loi sur ces innovations parce que voilà, filmer dans la rue comme ça, est-ce que c'est vraiment légal ou pas ? Voilà, donc, en plus qu'ici, enfin, en Europe, du coup, on a, tu sais, le règlement général de la protection des données.
Bah oui, le RGPD.
Le RGPD. Ah, ça, c'est on entend bien que c'est un informaticien, ce qu'il connaît par cœur.
Le RGPD, moi, j'ai fait des cours là-dessus, hein, donc...
Ah ouais ?
Eh ouais, bon, je suis calé en RGPD.
Donc, j'ai pas intérêt de dire de bêtises.
Eh non.
Donc, ouais, c'est, comme tu le dis, c'est des règles très strictes en Europe, hein, du coup, qui imposent aux constructeurs, donc, de... tu peux peut-être plus m'en dire, toi.
En fait, c'est le RGPD, c'est même dans toutes les entreprises partout, il y a le RGPD qui, en fait, protège les utilisateurs par rapport aux données. Par exemple, on n'a pas le droit de vous filmer dans la rue sans demander votre consentement. Mmh. Après, je vais te redire, il y en a plein qui le font.
Oui.
Genre sur TikTok, les gens qui font les TikTok, ils ne demandent pas à chaque personne qu'on voit dans la vidéo dans la rue, est-ce que je peux... Voilà. Mais en gros, c'est ça. Ça sert en fait aussi à protéger vos données. Par exemple, sur Internet, théoriquement, quand vous créez par exemple un compte, je prends n'importe quoi, un compte Decathlon, ils sont obligés de garder ces données-là pour vous et de ne pas les divulguer. Ça fait partie aussi du RGPD. Mmh. C'est plein de règles.
Ça
c'est un
protège.
Règlement comme ça. Voilà, ça nous protège sur l'informatique, les médias et tout. Voilà.
Mmh. Bah, merci. Ouais, c'est un peu plus complet que j'avais en tête. Alors donc du coup ce règlement là donc ils sont posés la question évidemment enfin hein, c'est un média voilà, qui alors je sais plus le média mais c'est un média qui avait interrogé donc je sais plus c'est Frandroid etc
okay.
Qui avait interrogé donc le RGPD enfin le donc ceux qui gèrent
sur l'utilisation des lunettes
c'est ça
coup.
Si comment ils voyaient ça et tout donc alors il y a deux usages il y a un côté où donc c'est strictement personnel et donc du coup là c'est légal.
Tu l'utilises que chez toi, en fait.
C'est ça.
Ouais.
C'est bizarre, mais tu peux.
Bah, si tu fais que des vidéos genre TikTok et tout avec les lunettes, ça peut... C'est... Bon, après...
Bah, ouais. Si c'est un usage personnel, tu as droit.
Ok.
Et dans un autre côté, l'usage de diffusion, ça nécessite quand même de respecter plusieurs formes, comme demander, enfin informer donc aux gens qui passent, par exemple, dans la rue, bah, qui sont filmés, obtenir au préalable... de permettre d'exercer leur image.
Oui.
Bref, plein de choses comme ça. Alors même s'il y a un petit... parce que sur les lunettes, il y a un petit voyant qui s'allume là et qui
ah,
dit
rouge,
ça tourne
même.
Et tout.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est un voyant blanc en plus.
Ah blanc, ouais.
Discret. Donc c'est un peu pour passer dans
oui,
la loi.
C'est fait exprès.
Bah oui, toujours. Donc voilà, c'est encore flou. Voilà, si c'est pour le privé, vous pouvez. Bon, après, voilà, ils vont pas vérifier.
Non.
Dire,
et
mais...
puis même, du moment que ça nuit pas à l'image de quelqu'un, en
c'est
vrai, c'est pas forcément dérangeant, sauf si la personne le veut pas en face, il peut porter plainte contre
c'est
vous
ça.
Et tout. Donc, faut faire attention quand même avec ça. Mais en soi, on peut faire pareil avec notre téléphone. Suffit qu'on prenne un selfie
oui.
ou une vidéo de nous, puis on voit des gens derrière, ça fait un peu pareil, quoi, au final.
Donc, oui. Non, mais y a la loi, c'est très, très complet et... Bon, je pense qu'il y a des articles sur Internet qui vous en disent plus sur ces lois-là, mais parce qu'on n'est pas juriste. Hein,
non, 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 non. Nous, on est lunettes connectées, c'est
on
tout.
On est des techos, nous. Et donc, revenons aux lunettes réalité augmentée. Donc, il y a plusieurs marques qui les ont lancées. Donc là, je vais revenir plus en 2024.
Ouais.
Voilà, on commence à arriver un peu en 2025, là.
Bah, oui.
L'année dernière, parce que c'était le 17 septembre. Bon. Où Snapchat avait annoncé donc, les Spectacles 5e génération. On est rendu au 5e. Hein.
Ah oui, ah oui, quand même.
mais là, si après vous faites les curieux après l'émission, vous allez voir que c'est vraiment un parpaing. c'est énorme en fait.
C'est pas discret
lunettes.
Du tout. Quoi. Ouais.
Et donc en fait, ces lunettes utilisent donc, de la réalité augmentée.
D'accord.
Donc, en fait, tu as des petits écrans transparents sur les lunettes.
Comme l'Apple Vision Pro, en fait.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Mais là, en fait, c'est pas des caméras qui filment. C'est, là, tu as la vraie vision des lunettes, quoi.
D'accord, c'est juste, en fait, tu as un écran, mais tu vois quand même à travers l'écran.
C'est ça.
Okay.
Un peu du style Google Glass, on va dire.
Ok. Parce que contrairement à l'Apple Vision Pro, du coup, il y a
c'est
vraiment
des caméras,
un écran
ouais.
Et c'est des caméras qui retransmettent, quoi.
C'est ça. Donc, voilà, à ce jour, donc Snap Il propose pas ce produit, désolé Maxime, tu pourras pas l'acheter.
Non, je suis vraiment déçu.
À part si tu es un créateur du coup de filtres, en fait il est en location. Enfin, c'est des lunettes qui sont en location.
D'accord.
Voilà. Alors, je pense que ça va venir de plus en plus, hein, les locations, parce que c'est un meilleur moyen de faire des rentrées d'argent.
D'accord.
Bon, ça, c'est un débat autour. Donc après, pour finir ma petite chronique, parce qu'on ne va pas parler que de Snap Meta, il y a d'autres constructeurs. Attention à prononciation. Xreal R2, Miyu Inki. Et ouais, c'est pas ouf, hein, ma prononciation. Et même Asus, qui ont créé leur prototype, qui était les Air Vision. Et en fait, ça permettait de répliquer son écran de PC comme si on l'avait branché en HDMI.
Ok, sympa, bonne idée.
Voilà. Donc merci, moi je te propose de passer ta musique.
Ouais, carrément. Alors la petite musique que j'ai choisie pour vous, c'est Let It Happen de Tame Impala, pour ceux qui ont la référence et qui connaissent un petit peu le monde de Breaking Bad, en fait, sur Netflix. C'est la musique thème du fameux personnage Jimmy McGill, alias Saul Goodman. Donc voilà, je vous laisse écouter.
Mais c'est parti.
19h, 20h30. C'est la revue Tech sur Graffiti.
Et nous sommes de retour.
De retour avec Sony et Maxime sur la revue Tech. On est là du coup pour la troisième et dernière partie de cette émission.
Sony et Maxime.
C'est le nouveau titre.
Il se présente lui-même. Laisse-moi te présenter. Je suis avec Maxime.
Je suis avec moi.
Ok, bon bah... la revue Maxime.
Bon allez, c'est parti. Du coup, on est parti pour mon premier grand format. Alors c'est un grand format un peu spécial puisqu'en fait c'est une expérience personnelle que j'ai vécue il y a un mois qui était un peu traumatisante. Bon, je suis pas traumatisé, mais c'était un peu chaud. Je vais vous parler du piratage. Alors en fait, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé et comment se sortir de situations comme ça et comment ne pas s'y mettre aussi. Voilà, j'avoue que j'ai peut-être fait quelques bêtises pour me retrouver dans cette situation.
C'est pas bien.
Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, je me suis fait pirater mon PC. Donc moi, je vous l'ai dit, je suis un gros gamer, je suis streamer, etc. Donc je joue beaucoup et je stream également. Si vous voulez venir me voir de temps en temps sur la chaîne Aixa Xa-M sur Twitch, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, voilà. Donc c'est un soir, j'étais en train de streamer tranquillement et là j'ai un viewer qui était un viewer basique qui m'envoie un message qui me dit: hey mec, je suis développeur de jeu. Est-ce que ça te dirait de tester mon jeu et tout? Première fois qu'on m'envoie une demande comme ça. Enfin, du coup, moi, je suis hyper content. Je suis en mode, bah, c'est trop bien. Genre, si une soirée, je peux tester un jeu, donner un avis et tout. Franchement, c'est cool. Donc, ça me fait plaisir de faire ça, quoi. Donc, bien sûr, sans souci. Donc, le mec, après, je le rejoins en appel. On a été en appel vocal.
D'accord.
Il m'a transféré avec ses potes. Donc, du coup, eux, ils étaient trois. Moi, j'étais tout seul. Et en fait, c'était ses potes développeurs. Donc, moi, je me dis, c'est 100% normal. Enfin, voilà. Ils me parlent de leur jeu et tout. Surtout que le mec, c'était pas un viewer en mode, il vient deux secondes et voilà, il me dit, est-ce que tu veux jouer à mon jeu, quoi. Il m'agresse. Là, il était vraiment là depuis une demi-heure sur mon stream. Donc, je me dis, c'est vraiment un vrai viewer, tu vois. Enfin, c'est. Donc, voilà.
Oui,
je me
sentais pas peur, quoi.
Voilà, je me sentais pas
menacé.
En danger. Jusqu'à en fait au moment où jusqu'à ce qu'il me fasse télécharger son jeu en fait. Donc là je télécharge le jeu, je commence à jouer. Donc là tu vois, je dis des petits retours, je dis qu'il y a des petits bugs parce que en fait voilà, c'est quand même des développeurs dans ma tête qui étaient assez jeunes. Donc voilà, je dis ouais, il y a des petits trucs et tout. C'était un vrai jeu, hein, j'étais en train de jouer et tout. Et au bout de 2-3 minutes que je jouais, j'étais encore en appel avec eux. Ils me disent on t'a piraté ton PC, on détient ton PC, on détient toutes tes informations, toutes tes données de ton compte Google, on sait où tu habites. Donc là, ils me sortent mon adresse, ils me sortent mes comptes Google, mes mots de passe. Je fais, oh là.
Donc là, t'avais chaud, je pense.
Là, j'avais très,
comment
très chaud.
Là
et je faisais, honnêtement, j'y croyais pas trop parce qu'au début.
Il était quelle heure?
Il était 23h30,
ouais,
40.
Donc, toujours, ça se passe toujours tard le soir.
Ouais.
T'as personne autour.
En tout cas, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Et franchement, j'ai été assez naïf. Mais en même temps, j'ai voulu être sympa. Et voilà. Donc, ne téléchargez pas de jeux 2D, de jeux des gens. Enfin, voilà. C'est pas ça la seule leçon. En fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait aussi pour me sortir de ce pétrin? Donc déjà, les mecs, je leur ai dit ciao. J'ai débranché tout de suite mon PC du réseau. Si il vous arrive un truc comme ça, vous débranchez tout de suite votre PC du réseau. Parce que, en fait, s'il est débranché du réseau, ils ne peuvent plus le gérer à distance.
D'accord.
Ça, c'est sûr, ils ne peuvent plus le gérer à distance, si vous le débranchez du réseau. Et en fait, après, genre moi, là, ils m'ont proposé une rançon de 100 euros, en fait. Il ne faut jamais payer parce que, en vrai, vous faites ce que vous voulez, mais moi, en tout cas, je paierai jamais des mecs comme ça parce que déjà, ils vous attaquent en fait. Enfin, genre, c'est clairement, c'est du piratage, donc c'est illégal et tout. Enfin, bref, ils vous attaquent clairement, quoi. Ils vous mettent en danger et tout. Et en plus, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit si je paye 100 euros? En vrai, je me suis dit, si c'était si facile, je paierais les 100 euros.
Oui,
en
oui.
vrai, pour arrêter d'être emmerdé et tout, d'être embêté, pardon. Et mais en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui me prouve que si je paye 100 euros, ils vont vraiment supprimer mes données?
Ouais, t'as
mes données.
Preuve, quoi.
Ben, c'est ça. Donc en fait, à tout moment, je payais 100 euros et puis en fait, ils me disaient, ouais, mais non, en fait, paye 200. Puis en fait, paye 300.
Oui, oui, à l'infini,
en fait,
quoi.
Ben, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, je parle d'une ancienne expérience, mais ça m'est déjà arrivé quand j'étais au lycée. Je me suis fait pirater mon compte Google et en fait, je voulais absolument le récupérer. Et j'étais vraiment tellement naïf, je suis un mec hyper naïf. Et
on est des gens gentils, Maxime, mais
voilà,
donc du coup, on est naïf.
Trop gentil. Et en fait, le mec, il me disait, mais non, mais file-moi ce mot de passe, ce mot de passe. Et moi, je faisais tout ce qu'il me disait. J'étais genre jeune et invulnérable, tu vois, genre vraiment, j'étais... Enfin, je savais pas quoi faire pour me sortir de ce pétrin. Et du coup, en fait, il avait un deuxième de mes comptes Google après. Et en fait, après, il m'en a pris un troisième et un quatrième. Et là, j'étais en mode, non, c'est bon, j'arrête de donner mes codes. Parce que de base, moi, je croyais vraiment qu'il allait me le rendre, quoi. Parce que j'étais jeune et voilà. Et bête. Et du coup, c'est pour ça aussi que je voulais pas lui donner 100 euros. Parce que ça pouvait faire pareil. Il me demandait 200, etc. Enfin bref, ça s'arrêtait jamais. Donc, ce que j'ai fait à la suite de ça, je me suis débranché du réseau. J'ai sécurisé mes comptes Google. J'ai réussi, ce qui est très compliqué à faire, récupérer mes comptes Google, donc changer mes mots de passe, etc. Okay. Ils avaient pris aussi, ils savent ceux qui sont chers aux gamers, ils ont pris aussi tous mes comptes de jeux. Ceux qui connaissent, mais mon compte Riot Games, mon compte Battle.net, mon compte Steam, mon compte Epic Games qui était le plus important, j'avais vraiment beaucoup de jeux dessus. Et donc voilà, j'ai réussi à récupérer tous mes jeux sauf mon compte Epic Games, où j'ai réussi à récupérer quand même plus tard, au bout d'une semaine et demie, parce que j'ai fait une demande de récupération, etc. Donc essayez de récupérer vos comptes de jeux, et surtout moi là maintenant, à partir de maintenant, ce que je recommande, c'est de ne pas enregistrer vos mots de passe sur Google, parce que Google, ça m'est déjà arrivé, mais en fait Google c'est hyper... Enfin, je veux dire, vous voyez, ils se sont pas connectés à mon compte Google pour récupérer mes identifiants. Ils se sont connectés à mon PC. Et en fait, de mon PC, ils ont récupéré mes identifiants Google, qui étaient enregistrés, entre guillemets. Donc en fait, moi, je vous conseille vraiment de pas mettre vos mots de passe sur Google, mais plutôt, moi, c'est ce que j'ai fait, du coup, d'acheter... Alors, il y a aussi des solutions gratuites qui existent, mais des gestionnaires de mots de passe, comme j'en donne un, par exemple, celui que j'utilise, Dashlane. En fait, c'est 50 euros par an, mais dessus, par contre, vous êtes 100% sécurité, et vous avez un mot de passe maître, et tous les comptes que vous mettez dessus, ce sera des mots de passe générés automatiquement à 20 chiffres, avec des caractères, n'importe quoi. Vous les retiendrez même pas parce qu'ils sont enregistrés en fait dans Dashlane et c'est vraiment hyper pratique. Donc maintenant j'utilise ça et vraiment j'ai banni Google, c'est fini.
Ouais, Google c'est dangereux, tu hackes ton compte.
En fait, oui, voilà. Mais en fait là c'est même pas ce que je disais, c'est même pas mon compte qu'ils ont hacké, c'est mon PC. Et en fait mes trucs ils étaient enregistrés sur mon PC sans que je le sache forcément, tu
D'accord.
vois. Donc je sais pas trop comment ils sont
donc
faits.
Donc tes mots de passe Google sont enregistrés sur ton PC, c'est ça?
C'est ce que je suppose. Okay, ouais. Après je sais pas comment les hackers ils ont fait pour récupérer toutes ces données.
Surtout, ouais, je sais que sur les PC, souvent, moi j'en vois beaucoup au travail, ils ouvrent leur page et en fait le mot de passe est déjà rempli en fait.
Oui, ben ça c'est parce qu'il est enregistré dans Google du coup.
Donc t'as le mot de passe de la machine, c'est bon en fait,
voilà,
t'as tout.
Voilà, c'est bon, t'as tout. C'est exactement ça. Et en fait, c'est pour ça maintenant que Google, je recommande pas, même si, voilà, si vous faites pas. Moi je l'ai quand même cherché, j'ai quand même téléchargé un jeu. Voilà, il faut quand même le chercher un petit peu pour se faire avoir. Mais en tout cas voilà. Donc après, ce qui s'est passé pour la suite, c'est que j'ai essayé j'ai rappelé mon hacker. Vous allez me dire pourquoi. En fait, j'ai été à la police plus tôt. Ouais, j'ai été à la police plus tôt et j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour porter plainte, etc. Ils m'ont dit que je pouvais clairement rien faire parce que c'était des comptes Discord et enfin des comptes Discord. Voilà.
Ils t'ont pris au sérieux ou pas les policiers?
Ils m'ont pris au sérieux, mais oui, clairement.
Ils ont l'habitude.
Ça arrive ouais, très souvent. Plus souvent qu'on le croit. Et en fait, ce qui est un peu marrant, entre guillemets, c'est que du coup j'ai essayé de rappeler, je voulais essayer un peu de jouer avec lui pour choper son RIB, choper un compte bancaire, quelque chose pour pouvoir porter plainte, parce qu'en fait dans ma tête je pensais, mais vraiment je pensais que c'était des jeunes de 17 ans, tu vois, qui étaient en programmation, qui m'avaient fait ce hack et qui testaient en fait un peu les gens, qui faisaient ça un petit peu de temps en temps.
Parce que si on testait avec un individu en direct.
Mais parce qu'en fait, je me suis dit, demander 100 euros, c'est un peu idiot, quoi. 100 euros, en vrai, c'est pas grand chose.
C'est pas grand chose.
Donc je me dis, c'est peut-être des jeunes qui tentent de gagner 100 euros. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, ça se trouve, il y a moyen qu'ils fassent une boulette comme c'est des jeunes et qu'ils me donnent leur RIB. Donc en fait, j'ai rappelé mon hacker et en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. Je suis resté pendant presque une heure en ligne avec mon hacker, c'était le jour de Noël. Et
t'es Noël sans
non,
un peu
c'était
space.
La veille, c'était le 24 décembre. Et en fait, je suis resté vraiment 3 quarts d'heure en ligne avec mon hacker et on a beaucoup parlé. C'est vraiment un gros réseau. Genre, on a beaucoup parlé à tel point que on est limite devenus potes.
Ah ouais.
Alors, vous allez dire, c'est un peu space,
c'est
mais
un bon titre, ça. Je suis devenu,
pote avec mon hacker. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, je lui ai prouvé qu'il pouvait plus rien faire contre moi. Je l'ai pas dit. Une fois après avoir débranché mon PC du réseau, le lendemain, je l'ai réinitialisé complètement. J'ai formaté les disques, etc. J'avais quand même une petite peur qu'il y ait quelque chose qui se cache dans la carte mère.
Un petit virus,
mais...
ouais.
Je pense pas honnêtement qu'il y avait quelque chose. Et donc du coup je l'ai rappelé, sûr de moi, en disant que voilà, j'ai, enfin du coup j'ai pas réussi à choper son rythme parce qu'il était pas si bête que ça. Du coup vu que c'était un gros réseau, en fait du coup on a réussi à parler et il me dit en fait que c'est carrément en fait une entreprise presque. Les mecs, ils sont 4-5 dans le bureau. Oh. Et tu vois, il disait à son pote derrière, « Ouais, est-ce que t'as les dossiers pour machin genre, est-ce que tu retrouves son PC et tout ?» Tu vois, genre, okay. Il parlait derrière comme ça à son collègue, genre.
Bon, j'y vais.
Non, mais et en fait, il me disait qu'ils en font 100, 200 par jour, des mecs comme ça.
Ah oui, donc là, ouais, bah, d'où l'utilité de ta chronique. Hein,
bah, c'est ça. Donc en fait,
maintenant, faut nous prévenir.
Ça peut vous arriver, ça peut arriver à beaucoup de gens. Donc en fait, lancez pas n'importe quoi comme logiciel. Faites attention, c'est surtout ça le plus important. Il faut vraiment prévenir ces choses-là. Et en fait, ce qui s'est passé après, j'étais quand même un peu fier de moi parce qu'il m'a dit que j'étais l'un des seuls à avoir réussi à m'en sortir comme ça. Là, j'étais yes.
Frotté les mains.
J'étais vraiment un peu content. Et parce que du coup, il m'a dit. Je dis clairement que je ne paierais pas de toute façon et que j'avais réussi mes comptes. Il me disait, tu sais, il me foutait la pression.
Oui.
Il me disait, ouais, c'est ça, on va voir. Tu vois, il fout la pression et tout. Et tu vois, il me met en pause, il me reprend 2 minutes après. Ah ouais, bah bien joué. Et moi, j'étais en mode yes.
Le mec, il était en mode, bon, faut que je joue avec mon supérieur là parce que.
Non, mais c'est vraiment ça en plus. Il y en a. En fait, lui, le mec que j'ai appelé, il s'occupe de choper les gens. En fait, ils sont plusieurs. C'est pour ça que je me suis retrouvé à 3 avec eux. Ils étaient 3. Parce qu'il y en a un qui s'occupe de choper les gens. Genre, lui, il m'a trouvé sur mon stream. Tu vois, il s'est dit, ah, lui, je peux l'avoir. Il est un peu naïf et tout. Donc, je peux l'avoir. Et lui, il m'a dit qu'il faisait ça. Il faisait que ça. Il faisait presque pas de hacking, en fait.
D'accord.
Il y en a un autre.
De la recherche, du coup, de
c'est ça,
de
la
victime.
Recherche de victimes, clairement. Il y en a un autre, lui, qui hackait le PC directement. Donc, c'est celui qui a codé le script, le jeu. Pour faire le hackage. Et il y en a un autre qui s'occupe de référencer les données Google, justement, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils étaient 3. Ils étaient vraiment sur mes côtes, quoi. Je pouvais vraiment pas m'en séparer. Et voilà, c'est comme ça que je me suis fait
débrouiller,
avoir.
Ouais.
C'est ça. Donc en plus, enfin, à 3, c'était horrible, quoi. Vraiment, c'était. Un peu un calvaire. Donc voilà, donc juste pour faire de la prévention, faites attention à vous. Ça peut être quand même assez hard, sachant que mon compte Google, moi j'avais plus de 150 mots de passe d'enregistrés dessus, je crois. Mais en vrai, je m'en servais pas de la moitié. Tu vois, c'était des mots de passe. Tu vas sur un site, hop, t'enregistres un mot de passe, tu tournes plus sur le site. Donc il y a plus de la moitié, les trois quarts, je m'en foutais. Mais il y en avait quand même des importants, comme notamment mes comptes de jeu, mais aussi, je sais pas, j'avais des comptes, enfin rien à voir, mais du coup, ça peut être dangereux qu'ils les stockent aussi, qu'ils les gardent et tout. Fin. Donc faites attention à vous. Et puis voilà, je pense qu'on peut passer, si tu veux, Sony.
Eh ben, j'espère que vous avez pris note.
C'est clair.
Enfin, pas en voiture, hein. Prenez
non,
pas
non,
note.
Attention, attention.
vous nous écouterez en podcast, Pierre.
C'est clair.
Pour clore nos chroniques, purée, c'est déjà la fin.
Je suis triste.
Ouais, ça y est. J'avais envie de vous parler de la fin des centres d'appel.
Ok.
Alors tu sais, quand t'appelles, par exemple, je sais pas, SFR, Bouygues Télécom, enfin, moi j'ai l'opérateur téléphonique en tête, tu tombes sur des gros groupes, quoi.
Ouais,
des,
c'est ça.
T'entends, puis, bah, comme toi, que t'es hacker, ou t'entends le mec derrière.
C'est ça. C'est des mecs sur des bureaux, il y en a 15 dans une rangée, et puis ils répondent à la file, quoi.
C'est ça.
C'est ça, il va. Ok.
Donc alors c'est un format que je tiens à vous dire, on va pas parler beaucoup d'IA, c'est pas notre but dans cette émission, donc je vous rassure, voilà, c'est pas notre éditorialiste, comment on peut dire ça,
je sais pas, c'est pas notre bataillon, quoi. C'est
mais
pas,
voilà. Exceptionnellement j'avais envie de vous parler de ça parce que c'était assez bluffant. Je veux être vraiment le mec de Retour dans le futur dans cette émission. Est-ce que tu te souviens en 2016 mec, il arrête pas avec ses dates, la sortie de la Google Home.
Oui, bah carrément. J'espère que tout le monde connaît Google Home.
Oui, où tu fais OK.
OK, Google. Voilà, j'ai allumé les trucs
mais
de tout le monde. Voilà, bien joué.
Et donc, c'était l'arrivée des assistants vocaux. Là, on découvrait ce que c'était. On était un peu des hommes de Cro-Magnon. On a fait oh, c'est quoi ça? Bon, peut-être pas vous, hein, mais moi, j'étais comme ça. Enfin, je me rappelle, j'étais même en stage à Leclerc, voilà, anecdote, est-ce que c'était utile, je ne sais pas, mais je l'avais déballé et tout, j'étais tout content.
En tout cas, on s'en souviendra que tu étais en stage à Leclerc.
Et donc, au début, les youtubeurs, par exemple, ou les gens, utilisaient ces assistants vocaux pour raconter des blagues. Voilà, on se souvient plein de vidéos sur YouTube qui sont sorties, et pour nous divertir, en fait. Donc, on n'avait pas vraiment conscience de la véritable utilité de ces machines, quoi. Enfin, ces assistants. Au fur et à mesure du temps, des produits compatibles de Google sont sortis. C'est comme les ampoules connectées, les thermostats.
Des trucs qui se règlent en fait avec la Google.
Ouais, c'est ça. Tu dis OK, machin, allume mon salon et tout.
Ça, c'est de la domotique.
Ouais,
ça,
voilà, merci. Merci pour ce détail. Mais voilà, ça s'appelle donc de la domotique. Pourquoi je répète la même chose que toi, je ne sais pas. Ça, c'était pour la petite histoire de la Google Home. Mais l'annonce qui avait fait le plus de bruit, c'était en 2018, on recule un peu, où Google avait annoncé Google Duplex. Tu connais ?
Ça me dit de nom, mais je ne suis pas sûr, donc tu vas nous le dire.
Alors en fait, c'était un service de conciergerie. Ça permettait en fait de réserver un rendez-vous à ta place.
D'accord. Je comprends pas trop le truc.
Eh bien, attends, t'inquiète pas. Alors, en gros, tu disais « Ok Google, trouve-moi un coiffeur ce vendredi entre 10h et midi ». Et en fait, c'était l'unique annonce à faire à Google Duplex. Donc par exemple, t'as Google Home. Voilà,
ouais.
Où il y avait Google Duplex à l'intérieur. Et en fait, il s'occupe de lui-même d'appeler le coiffeur afin d'effectuer la demande.
Ah ouais.
Ne t'inquiète pas, j'ai un petit exemple audio. C'est parti, on écoute ça. Alors, c'est ce qu'ils ont mis pendant la conférence, c'est en américain.
Ok.
See how may I hear you?
Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th.
For 7 people?
It's for 4 people.
For people, when?
Next night? Wednesday at 6 p.m.
Oh, actually, we reserve for April.
Oui,
like
c'est impressionnant.
People.
C'est impressionnant. Alors, la voix grave que vous entendez.
C'est le mec qui parle. C'est le mec, c'est l'IA.
Ouais. Ça, c'est Google Duplex.
Oh, mais attends, mais c'est impressionnant. Ah, mais par contre, je suis vraiment choqué. Je pensais pas du tout que ça allait bien parler comme ça.
Le mec, moi non plus.
Oui, du coup, c'est ça. Genre, il parle vraiment.
Toutes les intonations de voix qu'on a. Tu vois, il est pas directif en version je veux un coiffeur. Il est pas comme ça.
Oui.
Il est clean, quoi. Enfin, il est comme un humain. Donc, c'est très impressionnant.
Ah, ouais, c'est impressionnant. Je m'attendais vraiment pas à ça.
Alors, cette démo, donc, elle est sortie. Elle a impressionné tout le monde. Il y en a qui disent que c'est du fake. Il y en a qui disent que c'était bien. Donc, moi, je vous rappelle que cette démo, c'était en 2018.
C'est vrai que ça 2018, commence à dater.
Mais comment c'était rappelle, fort, quand même.
7 ans. Ouah, ça, c'est loin, 2018.
Alors, donc, cette technologie, elle est pas sortie au grand public. Mais à ce jour-là, en fait, Google, il l'utilise. Alors, devine pourquoi.
Non, je sais pas, je t'avoue.
Alors c'est parti, les commerçants qui nous écoutent sur Graffiti, prenez un bout de papier parce que les prochaines appels que vous allez recevoir qui se présentent en tant que Google Maps, ça sera sûrement une IA de Google en fait qui vous appelle et non un être humain.
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, ah oui, d'accord, au lieu de dire oui bonjour, c'est un employé de Google, ce sera pas un humain.
En fait, ce Google Duplex donc qui est mis par Google, il est là pour vérifier si les horaires que tu as annoncés, par exemple, de ton commerce sont bons.
D'accord. Ah oui, et avant, il n'y avait pas de vérification, si je ne me trompe pas. C'était juste que tu mettais tes
horaires. C'était peut-être un humain, je ne sais plus comment. Mais donc, du coup, alors moi, j'ai un exemple. C'est ma copine voilà, qui travaille dans un supermarché. Elle a reçu un appel, donc du coup, dans 09. Et donc, elle a passé à son patron en disant bah, « c'est un client qui... » qui demande nos horaires et tout. Et donc, ils n'ont pas du tout entendu que c'était une IA, en fait.
Et c'était vraiment une IA de Google, c'était une IA. Du coup. Ouais. Incroyable.
Donc, maintenant que les commerçants sont au courant, je pense que vous allez voir. Vous allez être pressé que le téléphone sonne. Alors, par exemple, ces coups de fil passent normalement vers Noël, les fêtes et tout, les Pentecôtes, enfin, les périodes de fêtes, en fait. Mm-hmm. Comme ça, ils vérifient et mettent à jour. Mais le jeudi 5 décembre 2024, c'était l'année dernière, on va pas refaire toujours la même blague, Eleven Labs, c'est une société qui est spécialisée dans le développement de logiciels et de synthèse vocale.
Ok.
Donc ils ont dévoilé Conversation AI. Oh l'accent.
Conversation AI.
Ah ouais, c'est un peu mieux. Non, même mieux. Et donc ça, c'est l'évolution de ce qu'avait sorti Google. Donc, c'est réservé ce logiciel pour les professionnels. En fait, ils peuvent créer leur agent conversationnel.
D'accord.
Ça veut dire que donc ils ont un, un logiciel devant eux et en gros ils ouvrent Eleven Labs les gens, enfin les pros. Et en fait, ils peuvent choisir donc le ton de la voix, la longueur de la réponse et intégrer la base de données de l'entreprise. Donc par exemple, tu as une entreprise, je sais pas
de vente de PC par exemple.
Voilà, merci. Voilà. Bah tu dis toutes les informations que tu as, le prix, les composants, enfin tu donnes tout. Alors ça tu peux le donner en HTML, en fichier, enfin tu peux tout faire.
Ouais.
Et en fait, l'IA va, il suffit donc de payer un abonnement à Eleven Labs et puis une carte SIM, enfin là c'est plus pro. Et une IA peut en fait répondre à la place des humains. Voilà.
C'est impressionnant quand même.
Alors ça, il y a des entreprises qui l'utilisent déjà. Par exemple, tu as peut-être eu des appels, des comptes CPF.
Compte CPF, oui, carrément, bien sûr.
On a été harcelé de ça il y a longtemps. Eh bien, donc du coup, ils utilisent parfois d'IA.
Ça, c'est impressionnant quand même. Hein.
Et franchement, toi,
je m'en reviens pas tout à l'heure de l'enregistrement. C'est quand même vachement bien fait. Hein.
Alors,
c'est un truc de fou.
Oui, ça, c'est très bluffant.
C'est pour ça qu'ils le font, parce qu'ils savent aussi que c'est bien fait.
Ah bah oui,
ils en profitent
un max
pour... ça a du bon et du mauvais, ça. C'est parce que ça va aussi, du coup, supprimer des emplois et tout, forcément.
Oui.
Si ça vient à être utilisé par beaucoup, beaucoup de monde, on a quand même beaucoup, beaucoup de monde au téléphone, chez Orange ou même chez n'importe quelle entreprise, par exemple. Cet après-midi, moi, j'ai appelé le support d'HP parce que j'ai un PC dans nos stocks qui a un problème.
D'accord.
Mais là, ça aurait pu être une IA, en fait.
Bah oui. Et toi, tu t'en rends pas compte parce qu'il va pas se présenter en tant qu'IA, il va se présenter comme employé ou... Enfin, même pas employé, mais...
Jouer
sur les mots, quoi.
Oui.
Alors, le souci pour l'instant de ces technologies-là, c'est les délais de réponse, en fait. Nous, en tant qu'humains, on a l'habitude de répondre. Tu vois, par exemple, toi, tu vas me répondre là, en chevauchement. L'IA, faut qu'elle l'interroge, donc la base donnée, plus les interruptions du client qui est au téléphone. Donc ça fait plein d'informations à traiter.
Il faut qu'elle comprenne ce que le client dit pour qu'elle retrouve ces informations dans la base de données.
Oui. Ouais. Donc ouais, t'as plusieurs, plusieurs choses qui se fait en même temps, quoi. Ça, c'était plutôt... c'est plutôt impressionnant. Je suis tombé aussi sur... je vais te remettre un enregistrement, Maxime.
Vas-y.
Je suis tombé sur un YouTuber, et peut-être ça va vous donner une idée, pardon. C'est Shumbam... Ouh là là, mais les prononciations, il va falloir que je m'entraîne. Hein. C'est Shumbam Sharma.
Ok.
Waouh, attends. Maxime, viens. Je t'envoie la feuille.
Shumbam Sharma.
Voilà, donc c'est un YouTuber qui est spécialisé dans le truc de simplifier la vie, on
D'accord.
va dire. Et donc lui, il voulait vendre un appareil photo, par exemple, voilà, sur le bon coin, mais il n'avait pas le temps, entre guillemets, de répondre aux gens et tout par téléphone, parce que sur le bon coin, tu sais, il y a plein d'appels et tout, tu n'as pas le temps de gérer. Donc lui, il a créé une IA, et donc il a fait un prompt. Je vous explique tout ça après cet extrait.
Bonjour, je vous appelle, j'ai vu votre numéro sur Le Bon Coin, c'est bien vous pour la caméra ?
Oui, c'est bien moi. Que puis-je faire pour vous ?
Bah, je suis intéressé par votre caméra, elle est bien en bon état.
Je voulais savoir s'il était sous garantie.
Non, l'appareil n'est plus sous garantie, mais je vous assure qu'il est en parfait état.
Est-ce que vous pourriez me faire une réduction, par exemple, de 25%?
Écoutez, je peux vous proposer de baisser le prix à 480€.
Est-ce que c'est OK si on s'accorde sur 400€, par exemple?
400€, c'est un peu bas pour une caméra de cette qualité. Je peux vous faire une offre à 450€, mais je ne peux vraiment pas aller plus bas.
Je vous rappelle d'ici demain pour vous donner une réponse définitive. C'est possible de me le garder et de le mettre de côté en attendant?
Alors, bluffant?
Ah ouais. Mais quand même, je trouve que c'est quand même moins bluffant.
Alors, c'est moins bluffant que les exemples que je vous ai mis avant. Parce que là, on entend vraiment l'IA du coup de ChatGPT ou ce qu'il a. Mais donc, alors là, pour l'anecdote, les gens qui ont eu cette IA au téléphone ne sont pas rendus compte. Hein. Paraît normal.
Mais quand même, c'est vrai qu'après, là, c'est quand même une bonne qualité audio. C'est vrai que quand t'es au téléphone, tu t'en rends sûrement moins compte.
Oui, oui, là, on a
c'est vrai que ça fait, je pense qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un qui parle un peu robot, mais sans plus, quoi. Parce que c'est quand même bien fait, hein, franchement. Ouais.
Bah, t'as vu les fameux, tu vois, l'hésitation
et
tout.
Oui, c'est vrai.
Très naturel et très humain.
Oui, c'est ça. Les petits tics de langage qu'on a,
c'est
en fait.
C'est impressionnant.
Ouais, c'est vrai que c'est bien foutu. Et même, il savait bien répondre, genre il négociait et tout. Non, je trouve que c'est trop bas pour la caméra de cette qualité, tu vois.
Oui,
genre,
les gens
il a
bon
des
point,
arguments
du coup,
de réponse et tout. C'est vraiment...
bah parce que du coup, donc, le youtubeur a créé un prompt en fait. Donc il a dit tu descends pas en dessous de 450. Mm-hmm. Si on essaie de négocier, tu utilises. Alors il avait un livre donc en exemple. Il a dit tu utilises ce livre-là en base de négociation, en gros. Techniques. Et en fait, comme ChatGPT, il a plein de données. Bah, du coup, c'est super bien. Alors, un petit point, donc, comme j'ai mis les guillemets avant l'extrait, on dit que c'est un gain de temps. Le mec, quand même, a dû configurer ça. Il a dû payer aussi une carte SIM, payer le truc qui gère l'IA. Donc, je pense que pour un appareil photo à 450€, ce n'est pas très rentable de
non,
réaliser tout ça.
Mais par contre, si jamais tu fais ça toute la journée dans une entreprise, par contre là, ça peut être extrêmement rentable. Hein. Vraiment.
Ah oui. Oui, oui.
C'est un truc de fou.
Donc, voilà, cet exemple est moins bluffant, malheureusement. Voilà, désolé, je vais être déçu
c'est
avec celui-là.
Après, c'est qu'on n'est pas anglais. Tout à l'heure, ça se trouve, il y aurait eu un anglais avec nous et il aurait dit oh non, ça marche pas du tout.
Oh non, c'est nul. On ne comprend rien en plus. Il n'y a même pas de langue. Voilà, c'était bon. Est-ce que pour toi, pardon, excuse-moi, parce qu'on débat même pas. Est-ce que pour toi, c'est l'avenir ?
En vrai, oui, mais en même temps, c'est bien et c'est mal parce que bon, c'est bien parce que ça va faire gagner énormément de temps aux gens, mais ça va faire gagner énormément d'argent aussi. Mais en même temps, ça va supprimer des emplois. Donc, mais bon, après, remarque, l'IA, elle râlera moins quand on lui criera dessus. Enfin. Parce qu'après,
il y aura moins de gens qui gueulent.
Ouais, c'est ça. On en a marre de la pub qui nous harcèle à chaque fois.
Ah, oui.
J'espère aussi que ça va pas, qu'ils vont pas mettre des IA pour nous harceler encore plus, quoi.
Ça, oui, ce oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça.
Et oui.
Alors moi, j'avais pensé plutôt à l'autre point. Tu sais, quand tu appelles un service, ça fait appuyer sur 1 si vous voulez contacter ça. Oui. Mais moi, j'ai plus en tête que cette IA nous accueille. Donc c'est une agent d'accueil. Et qui dit bonjour, que voulez-vous et
tout, au lieu de
et ça redirige vers un humain, donc enfin un humain, un assistant quoi.
Au lieu de dire faites un pour tel c'est service, ça. Tu lui dis ce que tu viens faire et elle te redirige bien. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est très très. Très
donc pour moi c'est ça que je pensais donc du coup en évolution,
en finalité,
en finalité. Voilà.
Franchement c'est une bonne idée que tu as là.
Eh bien ça y est.
C'est la fin.
20h27.
On arrive à la fin.
Et oui.
Donc du coup, merci de nous avoir écoutés sur Graffiti avec Sony. On est la Revue Tech, on est là pour rappel tous les deuxièmes jeudis du mois, du coup, de 19h à 20h30.
Et oui. Et on peut être, vous pouvez nous réécouter si vous avez aimé l'émission et merci beaucoup. Vous pouvez nous réécouter sur la graffitiradio.fr et aussi sur le plateforme de podcast où ça viendra dans pas longtemps. Donc sur Spotify et Apple Music. Voilà.
On a aussi du coup une page sur Graffiti directement. Si vous tapez la Revue Tech, vous la trouverez. Et dessus, vous aurez notre Instagram où.
Si vous voulez nous suivre.
Si vous voulez nous suivre, on poste des fois des actus. Et donc là, revue-tech, vous trouverez sur Instagram. Et puis voilà.
Et oui. On tient à remercier quand même pour cette première émission. Voilà, Graffiti,
c'est
nous a fait confiance.
Merci beaucoup.
Merci pour cette première. Merci à vous, les auditeurs qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Voilà, sur Instagram, on est joignable. Et nous, on a été très contents avec Maxime.
Très, très contents de porter ce projet. Enfin, c'est vraiment cool. Donc, on espère que ça va vous plaire aussi et puis qu'on va pouvoir continuer.
C'est ça, ouais. Donc nous, voilà, on va chercher beaucoup plus de sujets. Hein. Bien sûr, ces chroniques dans la soirée, beaucoup plus approfondies. Voilà, les grands formats, comme on les appelle. Donc ça va être super. Alors, tu as quelques idées pour la prochaine Revue Tech ?
Bah, peut-être qu'on va parler de peut-être la vraie Switch 2, cette fois, la vraie annonce rapidement. Peut-être les dernières cartes graphiques. Peut-être, après, je ne sais pas. Si j'avais vu aussi les dernières voitures ou les choses comme ça, on verra, on ne sait pas. En un mois, ça peut aller très vite, la technologie, donc c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est pour vous prévenir chaque mois de ce qui se passe. Et puis voilà, comme ça, vous êtes à l'actu tout le temps avec nous, donc n'hésitez pas à revenir tous les deuxièmes jeudis du mois, je le rappelle, de 19h à 20h30 sur Graffiti. Et on vous attend avec plaisir avec Sony.
Très bien. Eh bien, super. Bon, il est l'heure de rendre l'antenne. Voilà, malheureusement. Et puis, encore merci. Et puis, à très bientôt.